Alors, je rappelle que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de fête des mères. C'est toutes... Voilà, les mères, les seules mères dont ils, qui sont fêtées, ce sont les mères spirituelles. Donc, nous sommes toutes appelées à être mères et pères spirituels, que nous ayons des enfants ou pas. Et c'est ça, la vraie maternité dans le Nouveau Testament, c'est la maternité spirituelle. Et ça, c'est valable pour nous tous. Et donc, c'est largement la fête de chacune et de chacun aussi dans l'Église, à ce titre-là. Alors, nous continuons nos lectures et dans les 10 commandements. Les enfants donc, ont rejoint leur groupe d'école du dimanche. Et nous arrivons au 10e commandement. Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Alors c'est, on va relire après le texte tout de suite, mais j'aimerais dire que c'est vraiment le dernier, mais c'est aussi le petit dernier. C'est-à-dire c'est le petit dernier qu'on oublie souvent. À partir de 9e, on croit qu'on a tout dit, puis voilà, bah oui, c'est en plus, tu ne convoiteras pas. Alors oui, il y a des commandements faciles à repérer, ne pas tuer, bon, ça va, ne pas voler. C'est des commandements faciles à repérer. Il y a aussi d'autres sujets faciles à se rappeler, on va dire. L'adultère, on s'en rappelle. Le mensonge, l'idolâtrie, voilà, des sujets faciles à rappeler. Le jour du repos aussi. Le respect des parents, de la parole donnée, le respect du seul Dieu. Voilà des commandements faciles à repérer, faciles à se rappeler. Ça fait quand même 9 commandements seulement. Et on ne pense pas au 10e commandement qui nous dit « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. » Alors pourquoi est-ce que Dieu a dit ça? Je vous rappelle donc en Exode chapitre 20, une des 2 recensions de la Bible des 10 commandements. Le peuple des Hébreux vient d'échapper à l'esclavage en Égypte, un esclavage cruel, mortel. Il a traversé la mer, il a traversé le désert jusqu'au mont Sinaï, et là, il reçoit de Dieu ses paroles, de la main même de Dieu. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays d'où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut, dans le ciel ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Oh, pense à observer le jour du repos et fais-en un jour consacré au Seigneur l'Éternel. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Alors, j'ouvre ici une petite parenthèse avant d'aller au fond des choses. Pour expliquer une particularité de ce texte, une particularité du texte qui peut surprendre. Pourquoi la maison du prochain est-elle mise ici en premier, donc avant la femme, et pourquoi cette mention est isolée des autres biens du prochain, son bœuf, son âne, son serviteur, etc., tel que le verset le mentionne en tout cas. La réponse peut être assez simple, en tout cas. Je crois que ça veut dire que la maison ne doit pas être comprise ici comme désignant le domicile, le bien immobilier, la maison avec un toit, des portes, des fenêtres ou l'appartement. C'est plutôt un terme qui désigne la famille. La famille. Et donc, tout ce qui appartient au prochain, c'est... Et d'ailleurs, donc la famille et tout ce qui appartient au prochain. C'est donc l'un des emplois d'ailleurs courants du mot maison dans l'Ancien Testament. On pourrait éventuellement le remplacer par maisonné. Donc le commandement emploie d'abord un terme général, la maison, la maisonnée, qui englobe tout ce qui appartient à mon prochain. Je ne dois pas le convoiter. Et ensuite, il détaille. Il détaille les choses en commençant par la femme, bien sûr, qui est évidemment le bien le plus précieux du prochain. En tout cas, on l'espère, et on l'espère en ce jour particulier, et pas seulement en ce jour particulier, tous les jours de l'année. Alors, continuons dans la particularité de ce commandement. Qu'est-ce que ça veut dire, la convoitise ? Alors, la bonne définition, je crois, c'est que la convoitise, c'est un désir immodéré de posséder quelque chose qui n'est pas à nous. Un désir immodéré de posséder quelque chose qui n'est pas à nous. Ça veut dire qu'on peut désirer des bonnes choses dans la vie. Désirer quelque chose, ce n'est pas mauvais en soi. Il y a beaucoup de textes bibliques qui nous éveillent à des désirs positifs, désirs d'action pour le Seigneur, désirs d'action dans la vie, désirs de communion, désirs de louange, désirs de découverte de Dieu. On a le droit de désirer découvrir Dieu mieux et avancer dans sa découverte. Alors il y a des désirs parfois douloureux parce que nous sommes, et ce sont parfois des désirs douloureux parce que nous sommes encore dans l'attente d'une plénitude. Et tout ce que nous désirons, nous ne l'aurons pas sur cette terre. Même les meilleures des choses, nous ne l'aurons qu'en partie. Et donc, nous sommes encore dans l'attente d'une plénitude qui ne pourra être comblée que par la venue en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi c'est sur l'expression d'un désir, vous n'avez peut-être jamais réfléchi à ça, mais c'est sur l'expression d'un désir que se termine la Bible. D'un désir ardent. C'est le dernier livre de notre Bible. Viens, Seigneur Jésus. Alors, désirer, on peut désirer... ce n'est pas mauvais en soi, même si sur cette terre, nous sommes dans l'attente d'un accomplissement qui viendra à la fin des temps. Alors, désirer quelque chose, ce n'est pas mauvais en soi. Au contraire, on pourrait ajouter, cela nous empêche de mourir de faim. Si on ne désirait pas, il y a des gens qui n'ont plus faim. Alors là, c'est grave. Le désir aussi nous incite à travailler. Le désir aussi nous incite à construire notre vie, beaucoup de choses de ce genre-là. Mais ce dixième commandement ne condamne pas ces désirs-là, il condamne le désir immodéré, on l'a dit, un désir excessif, un désir exagéré. Il condamne le désir de posséder aussi ce qui n'est pas à nous, et de porter atteinte donc aux droits du prochain en souhaitant prendre ce qui est à lui. Et donc le commandement ne vise pas seulement ce qu'on appelle aussi, ne vise pas seulement ce qu'on appelle la convoitise charnelle, le désir sexuel. Parfois, on le cantonne, ce commandement, on pourrait cantonner la convoitise à cela. Non, le commandement est très sage, très équilibré. Il vise le rêve qui tourne autour du bien de mon prochain, quel qu'il soit, dans plusieurs directions. Alors tu ne convoiteras pas. Jamais ce commandement ne se trouvera dans le code pénal. Jamais il ne nous fera encourir une amende. Car la loi française ne s'occupe pas de ce que vous pensez, en tout cas jusqu'à présent. Dans certains cas, la loi peut intervenir sur ce que vous dites, sur ce que vous écrivez, sur ce que vous faites, surtout. Mais jamais elle ne peut prendre connaissance de vos pensées, encore moins les juger. Dieu seul juge les cœurs. Les cœurs et les reins, ils sondent les cœurs et les reins, dit la Bible. Dieu connaît nos pensées les plus secrètes. Ce qui est inconnu aux hommes, Dieu le connaît. On peut cacher des choses aux hommes, Dieu, on ne peut pas lui cacher. Et donc Dieu estime que nos pensées méritent d'être traitées sur le même plan que nos actes. La pensée prépare l'acte aux yeux de Dieu. Elle en est la racine. Quand on enlève les mauvaises herbes, on enlève, bien sûr, le ver et la fleur et la semence, mais on essaye d'enlever ses racines, sinon ça repousse tout de suite. Évidemment, les conséquences sociales sont différentes entre la haine qu'on a eu dans nos pensées pour quelqu'un et le meurtre quand on est passé en acte. Bien sûr, il y a des conséquences sociales différentes. Il y a un écart important entre les deux. Mais Dieu jugera à la fois la pensée et l'acte lui-même. Voilà ce que dit la Bible. Alors, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, il est dit. Donc, ça touche, on n'y revient pas, ça touche à la racine de l'adultère, citée dans le commandement numéro 7. Hein, vous les savez par cœur maintenant. Hein. Et on avait insisté sur le fait déjà que Jésus, hein, en commentant ce commandement dans le sermon sur la montagne, insiste là-dessus. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Donc ça touche à la racine du vol. Hein. Et c'est cité dans le commandement numéro 8. On avait parlé il y a 15 jours environ. La convoitise peut aussi être à la racine du meurtre. On le sait. Et c'est cité dans le commandement numéro 6. Tu ne commettras pas de meurtre. La convoitise est même appelée dans le Nouveau Testament une idolâtrie. Parce qu'on idolâtre des biens, pensant qu'ils peuvent nous apporter le bonheur. Et on les place au-dessus de tout, au-dessus de Dieu. Et donc, elle met quelque chose d'autre que Dieu à la place de Dieu. Voilà ce que fait la convoitise. Et donc, elle est une idolâtrie. Donc, ça vise le commandement 1 et 2. On a presque fait le tour. Hein. Donc, vous avez peut-être entendu des prédicateurs qui font des comparaisons désobligeantes entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Hein. Selon eux, la loi de l'Ancien Testament ne serait qu'une série de contraintes extérieures, une sorte de conformisme, mécanique, juridique seulement. Alors, qu'est-ce que dit on voit avec ce dixième commandement que c'est la preuve, qu'on peut donner la preuve du contraire, hein, puisque Dieu, dans les dix commandements, dans le centre, un des centres de l'Ancien Testament, Dieu vise une obéissance qui touche le cœur, hein, non pas une obéissance extérieure, mais une obéissance qui touche le cœur, qui touche les pensées, qui touche l'intime de la personne. Hein. Alors, on sait bien que dans le Nouveau Testament, les pharisiens voulaient tout réduire à des règlements, sans aller au fond des choses. Mais ils ne respectaient pas l'Ancien Testament en faisant ça. Hein. Les prophètes de l'Ancien Testament visent la purification du cœur, hein, et le changement du cœur, et l'obéissance qui vient du cœur. Et puis Moïse vise nos pensées ici, dans les dix commandements. Hein. Et Jésus ira, bien sûr, dans le même sens. Alors, il y a quelque chose de terrifiant dans cette idée. Hein. Si nous avons une vision superficielle du péché, on peut dormir sur ses deux oreilles en disant « je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, et je peux être tranquille. Hein. » Mais si vous allez au fond des choses, comme le fait ce dixième commandement, et que vous vous posez la question de vos pensées, hein, à quoi j'ai pensé? Quelles étaient mes pensées? Eh bien, vous ne serez plus tranquille du tout. Hein. Il y a de quoi plus dormir aucune nuit de l'année. Hein. Il y a un aspect terrible dans ce commandement. Et ce qui est terrible, c'est que ça ne va pas en s'améliorant. Nous vivons dans une société où toutes les campagnes publicitaires excitent constamment nos désirs. Hein. Et le soir, avant de nous coucher, nous avons notre dose de publicité avec toute cette excitation de désir. Les pubs créent en nous des besoins qui n'existaient pas avant. Hein. Bien sûr, la convoitise a toujours existé avant la publicité. Mais tout ça est renforcé par notre système de consommation actuel. Hein. Les pubs nous amènent à convoiter. Hein. Et on va convoiter la voiture du prochain, on va convoiter son portable, on va convoiter, etc. Hein. Et on peut dire qu'il est bien fort. Celui, et ou bien naïf aussi, celui qui dit qu'il ne se laissera pas tenter. C'est de la naïveté. Alors, nous l'avons fait pour les autres commandements. Essayons de voir maintenant ce qu'il y a derrière ce dixième commandement. Alors tout d'abord, ce qu'il y a derrière ce commandement, c'est le respect des biens. Ça nous apparaît évident. Ce commandement suppose qu'il est normal de posséder des choses. Il est normal de posséder des meubles, il est normal de posséder une maison, une voiture, une entreprise. C'est un attachement plus grand qu'à Dieu qui n'est pas normal, mais les posséder, c'est normal. ce que j'ai d'ailleurs est le reflet de ma personnalité. On l'a dit hein, pour le 8e commandement. J'ai travaillé, hein, j'ai mis de côté, j'ai acheté, j'ai hérité de ma grand-tante ou de ma grand-mère. Il n'est pas normal que quelqu'un, qu'une tierce personne, hein, eh bien, convoite ce qui est à moi, lorgne sur ce qui est à moi pour le prendre. Hein. Respecter le bien d'autrui, c'est respecter la personne d'autrui. Hein. Et dans l'Ancien Testament, hein, roi 16, hein, on a parlé déjà la semaine passée de cette histoire terrible, hein, en commentant le faux témoignage. Hein. Cette histoire terrible évoquée, hein, qui montre que jusqu'où la convoitise peut nous pousser également. Hein. Il s'agit donc, je le rappelle, du roi Achab. Il était un roi du royaume du Nord. Hein, et à l'époque où les deux royaumes étaient divisés, le Nord et le Sud. Hein. Et pour agrandir ses jardins, il convoite un terrain, un beau champ de vignes, qui se trouve juste à côté du palais de Jizréel. Il propose un marché à Naboth, hein, le petit propriétaire de ce petit champ de vigne. Mais Naboth n'est pas vendeur. Hein. Ce terrain est un héritage de famille, Naboth ne veut en aucun cas le vendre. Alors, voilà, Achab agit comme un enfant gâté. C'est ça sur lequel je voudrais insister. Hein. Dépité, comme un enfant gâté qui n'a pas eu son sucre, hein, qui n'a pas eu son bonbon. Et le roi Achab boude, il boude dans son coin, hein. Voilà. Et alors intervient sa femme Jézabel, qui est son alter ego dans la méchanceté. Alors on peut s'entraider dans le mariage, mais on peut aussi s'enfoncer mutuellement. Là, c'est le cas. Pourquoi tu boudes ? À cause du chant de Naboth. On imagine qu'il pleure, hein, comme dans les bandes dessinées. Hein. Mais c'est toi le roi, oui ou non ? Tu veux ce chant ? Tu l'auras. Ah, laisse-moi faire, ah, ça commence mal, hein, ça continue. Et Jézabel va ordonner aux magistrats de la ville de concocter un faux procès contre Naboth, c'est ce qu'on avait dit la fois passée. On trouve de faux témoins. Hein. Naboth est condamné pour une faute qu'il n'a pas commise et il est tué. Et Achab a son champ. Hein. Mais pour ce crime, le prophète Élie lui annonce la fin de son règne et même la fin de sa dynastie. Et donc les raisins de la convoitise, les raisins de ce vignoble auront un goût de sang. Et la convoitise donc a amené le crime et le crime a entraîné le jugement. Voilà le lien que fait la parole de Dieu. Alors ce qu'il y a derrière ce commandement, c'est aussi le respect du mariage. Le 10e commandement suppose aussi que le mariage doit être respecté. L'amour ne justifie pas l'adultère, en aucun cas. Mais l'adultère en tant que relation amoureuse coupable, on l'a déjà mentionné dans le 7e commandement. Alors qu'est-ce que Dieu vise spécialement dans ce 10e commandement, de plus que le 7e ? Ça c'est intéressant. Alors je crois que Dieu vise cette attitude typiquement masculine, bien que tout change, hein. Cette attitude typiquement masculine qui voit la femme comme une chose à posséder. C'est ainsi que certains hommes partent à la conquête des femmes, en leur racontant de belles paroles d'amour, mais dans un but purement égoïste. Et donc c'est porter atteinte au prochain comme à sa femme. Même quand on invoque l'amour. Et en 2 Rois, en 2 Samuel 11 et 12, il y a l'histoire par excellence. Hein. C'est le roi David qui s'est rendu coupable à l'égard de ce commandement. Hein. C'est le printemps, c'est le mois de mai, on fait ce qu'il nous plaît au mois de mai. C'est ce qu'a pensé David. Les toits sont pleins en plus, les gens commencent à vivre sur les terrasses. Et le roi voit une belle femme. Il a déjà plusieurs femmes, mais ça lui... Voilà. Et une belle femme qui se baigne sur son toit, pas loin du palais. Le roi vit une période d'oisiveté, il n'est pas allé à la guerre, on ne sait pas pourquoi. Il ne se contente pas de regarder longuement, il fait venir la femme, ça tombe bien, le mari est parti à la guerre où il devrait être, le roi, et l'armée est partie aussi. Et bien après, la femme compte les jours, elle envoie un message au roi, « Je suis enceinte ». C'est pas très glorieux pour ce roi qui passe pour un homme religieux. Hein. Plus que ça, nous le savons. Comment va-t-il se tirer d'affaire? Alors, il fait venir d'abord le mari. Hein. Il fait semblant de lui poser des questions sur la guerre, sur l'état de l'armée. Puis il le renvoie pour la nuit à la maison. Hein. C'est le repos du guerrier. Hein. Sauf que le mari ne va pas à la maison. Hein. Rien ne se passe comme David l'a prévu. Le mari couche avec ses frères d'armes dans la salle de garde. Alors le roi fait une nouvelle tentative, bon repas, vin fin. Le mari couche dans la salle de garde, toujours pareil. Pour finir, le roi David emploie les grands moyens. Le capitaine Uri est envoyé au front avec une lettre qui le condamnera à mort. C'est un message pour le général Joab. Tu mettras Uri en première ligne et tu t'arrangeras pour qu'il soit tué tout de suite par l'ennemi. Donc voilà, la convoitise se prolonge par l'adultère. Puis par un meurtre déguisé. Et donc ce crime, on va dire, David, même si Dieu a pardonné à David repentant, ce crime, David va en payer certaines conséquences toute sa vie. Alors, tu ne convoiteras pas. Est-ce qu'on peut maintenant passer à la forme positive du commandement? Pouvons-nous imaginer une forme positive pour ce commandement? Alors, on va dire, on en a déjà parlé. Il y a quelque chose de positif dans le fait de respecter d'abord, respecter les biens d'autrui, respecter le mariage d'autrui. Hein. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose de plus positif encore? Alors, peut-être il y a deux pistes. Tout d'abord, la première piste, c'est dire que pour satisfaire à ses besoins et à ses désirs, la voie normale, c'est de travailler. Au lieu de jalouser le prochain, au lieu de convoiter ce qui lui appartient et qu'on n'a pas, soi-disant, eh bien, on travaille. Et si on veut améliorer sa situation, on travaille un peu plus. Alors, on connaît la fable de la fontaine, une des plus connues, la cigale et la fourmi. Et on peut dire que la Bible est du côté des fourmis. Et d'ailleurs, il y a de beaux textes dans le livre des Proverbes, « Va vers la fourmi paresseux ». Voilà. Et donc, dès l'origine, l'homme est appelé à travailler. Mais il faut quand même apporter un bémol là aussi. Le travail n'ouvre pas les portes à tout, on le sait bien. Le monde n'est pas parfait. Certains biens seront toujours hors de ma portée, même si je travaille beaucoup. Une villa sur la Côte d'Azur, non. Une Mercedes, pourquoi une Mercedes, je ne sais pas, mais d'autres marques si vous voulez. Un tableau de Rembrandt pour mon bureau, non, ce n'est pas possible. Une copie, mais... Alors, un téléphone portable de la 20e génération, non plus. Et puis, il faut se rappeler que même dans le monde dans lequel nous vivons, même si on travaille plus, on ne gagne pas forcément plus. D'où l'importance de la deuxième piste. Le contentement, voilà ce que la Bible nous dit. L'apôtre Paul, assigné à résidence, gardé par un soldat de Rome, écrit en Philippiens 4, 11 et 12, « J'ai appris, c'est un apprentissage, j'ai appris en toutes circonstances à être content de ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. » Donc Paul a vécu toutes ces situations. Et le grand apôtre a vécu dans le dénuement, dans le besoin, dans la faim. Et c'est une des marques d'ailleurs de l'apostolat authentique. Et puis le plus dur, c'est pas de vivre l'un et l'autre, c'est de passer de l'un à l'autre. Des fois brusquement, c'est ça qui est le plus déstabilisant dans la vie. Et il a appris le contentement dans tous ses aspects. Alors ça nous rappelle une chose, c'est qu'il y a tant de choses à la portée de tout le monde dans cette vie. Les choses les plus précieuses de la vie sont entièrement gratuites. On peut les prendre. La tendresse entre une femme et son mari. Le sourire d'un enfant. Le spectacle merveilleux d'un soleil couchant, quelle que soit la saison. La féerie d'une forêt enneigée, ça me parle en tout cas. L'amitié. Il y a plein de choses pour lesquelles qu'on peut apprécier et pour lesquelles on peut remercier Dieu. Apprécier et remercier Dieu pour les bonnes choses de la vie, c'est à la portée de tout le monde. Et donc, faisons-le. Et donc, on peut le faire, chacun. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui coûtent cher. Tant mieux si vous pouvez les avoir. Tant mieux si vous pouvez en profiter. Mais n'en faisons pas de maladie dans le cas contraire. Voilà ce que dit la Bible. Paul a dit encore, « Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. » 1 Timothée 6,8. Mettez ça en lettres d'or, quelque part. « Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. » Il ne parlait pas des repas gastronomiques, chez Maxime. Il ne parlait pas des vêtements de marque, qu'on s'arrache. Je ne sais pas. Bon. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contentons. Vous voulez vous libérer de la convoitise des biens? Eh bien, la Bible dit, apprenez le contentement. Voilà la solution. Et si on cherche ailleurs, on ne trouvera pas de solution. Allez même au-delà du contentement, nous dit la Bible, en apprenant toujours et à nouveau la générosité. Et on en avait parlé aussi pour le 8e commandement. Donc, concluons. Où en sommes-nous? Tout le monde est concerné par ce commandement, comme tous les autres. Et la parole de Dieu est toujours utile, et elle s'adapte toujours à nos besoins d'aujourd'hui. La convoitise est à la fois une idolâtrie et un esclavage. Il n'était pas facile, mettons-nous dans la tête des Hébreux qui sont sortis du pays d'Égypte, il n'était pas facile de se libérer de l'esclavage de l'Égypte. En une nuit, ça a été fait. En une nuit. Mais se libérer de la convoitise des yeux, c'est autre chose. Il n'y aura pas de miracle éclatant, ça ne se fera pas comme ça, en une nuit. Et je n'aurai jamais fini tout à fait avec le combat contre la convoitise. Mais en Christ, nous sommes sur la bonne voie. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous avons pris la bonne voie, nous sommes sur la bonne voie. Et en Jean 8, il est dit, si Jésus, le Christ, vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors marchons de tout cœur, avec un désir renouvelé, une force renouvelée qui vient de lui, sur ce chemin de la liberté, sur ce chemin pour lequel le Christ nous a libérés. Amen.